Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Merci de votre fidélité et de vos courriers, de vos mails qui nous font toujours très plaisir. C'est une grande joie pour nous d'avoir des liens avec vous et nous voulions vous dire toute notre gratitude pour cela. Justina nous parlera aujourd'hui du pseudo-moralisme dans le débat entre les croyants et les athées. Bonjour Justina.
Bonjour.
Je recevrai de nouveau cette semaine Pierre-Marie Dessus de Céroux. Bonjour monsieur.
Loué soit Jésus à tous nos auditeurs.
Loué est-il. Auteur théologien connu et reconnu avec lequel nous échangerons comme promis, cette fois-ci sur les secrets confiés par la Vierge Marie aux voyants. Alors Justina, dites-nous, pseudo-moralisme.
Oh, pas que, mais entre autres. Donc, nous continuons notre simulation du débat classique entre les paradigmes voisines, le christianisme et l'athéisme. Oui, oui, voisines. Si cela vous choque, je vous invite à réécouter notre émission du dimanche dernier. Donc, je continue le débat. Vous êtes des méchants immoraux. Vous rejetez Dieu pour pouvoir forniquer à droite et à gauche, disent les croyants. Vous êtes des hypocrites, vous faites des bonnes œuvres en espérant une récompense dans l'outre-tombe. Nous, au moins, on est sincères, répondent les athées. Dans cet exemple classique, le problème du croyant est de croire que la morale est toujours d'origine divine et de penser que si quelqu'un rejette Dieu, ce ne serait par pur intérêt de se livrer à la débauche. Certes, Dostoïevski a dit « s'il n'y a point de Dieu, alors tout est permis », mais le souci est que dans l'optique chrétienne qui admet le libre arbitre, le fait que Dieu est n'annule pas du tout le fait que tout est permis. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, disait l'apôtre Paul. Puis que faire des personnes athées qui ont un comportement moral irréprochable et des personnes croyantes qui ne peuvent pas vraiment s'en vanter, et ça arrive et on le sait très très bien. Les mœurs, un comportement social souhaité par le groupe et la punition en cas de désobéissance existent chez les chimpanzés qui, à ma connaissance, ne sont pas connus pour un sentiment religieux profond. Tout simplement, les chimpanzés n'aiment pas qu'on leur vole des bananes, n'apprécient pas que le mâle oméga s'accouple avec une femelle qui appartient à un mâle alpha et ils n'apprécient pas les individus qui mettent le groupe en danger. Finalement, les mœurs ne sont qu'un accord social qui assure la survie et la multiplication du groupe. Finalement, le bien est que ce qui me plaît et le mal est quelque chose qui ne me plaît pas. Les athées vont se réjouir de cette affirmation, mais pas pour longtemps. La contre-attaque des athées consiste à reprocher aux croyants de ne pas correspondre à leurs propres idéaux ou bien de nous accuser de faire le bien par intérêt dans l'espérance d'obtenir des bénéfices ici-bas ou bien dans l'outre-tombe. Et le pire que beaucoup d'entre nous veulent bien affirmer ce cliché. Le cercle se renferme, nous sommes en train d'agiter des épouvantails dans un théâtre de marionnettes. Nous alimentons les monstres façonnés par l'autre. Mais voilà la question qui se pose. Si la morale est relative, et je viens de le démontrer, pourquoi alors mes interlocuteurs athées ressentent un besoin vital de nous faire justement la morale quand ils nous citent les passages choquants de l'Ancien Testament? Après tout, la partie législative de la Torah vise un objectif très terre à terre, la survie et la multiplication du peuple d'Israël. Et vu que depuis le peuple est toujours en vie malgré tout ce qu'il a enduré dans son histoire, visiblement c'est efficace. Selon Darwin, le plus adapté survit. Mais dans ce cas, il faudrait reconnaître la loi de Moïse comme bonne et efficace malgré sa cruauté, et le terme même de la cruauté serait un jugement subjectif. Cruel pourquoi ? Parce que, comme chez les chimpanzés, la cruauté ne me plaît pas, donc c'est le mal. Pourtant, la loi de Moïse ne plaît pas aux athées. Et pourquoi donc ? Nos athées sont un produit d'une société chrétienne qui a baigné dans le Nouveau Testament. Et il est tout à fait naturel d'être choqué par l'ancien. Et nous, chrétiens, si nous n'étions pas choqués, on serait juifs. Quoique même les juifs le sont, le judaïsme rabbinique a aboli la peine de mort. Nous voilà tous choqués en 2024, les athées, les chrétiens et les juifs dans le même sac. Peut-être qu'il faudrait donc en finir avec cette guerre d'épouvantail parfaitement inutile et passer à un autre niveau de discussion avec nos cousins. Ce qui va être difficile, c'est de résister à la tentation de lancer des piques pour les deux camps. Mais le camp chrétien a au moins une raison viable de résister à cette tentation. Il nous est demandé l'impossible d'aimer notre ennemi. Car si on aime ceux qui nous ressemblent, en quoi nous sommes si différents des chimpanzés ? J'invite les athées à discerner de leur côté aussi. Comment vivez-vous votre athéisme? Est-ce que vous pouvez le vivre pleinement de votre réveil jusqu'à la tombée de la nuit de manière cohérente? Comment peut-on vivre son athéisme sans qu'un croyant vous arrive sous la dent? Si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être parce que vous avez besoin de nous pour le vivre. Dans ce cas, vous êtes un produit secondaire qui ne peut pas exister de manière indépendante de nous. Et si vous êtes vraiment un vrai athée cohérent, vous devriez l'admettre sans le prendre mal. Car la position philosophique première de l'athéisme actuel, c'est le déterminisme. Pourquoi ? Le déterminisme fait partie d'un paradigme des sciences naturelles. Pour étudier les lois de la nature, il faut admettre qu'elles existent. En second lieu, c'est aussi un stratagème pour se rendre insaisissable par la, j'aime pas ces termes, la preuve de l'être de Dieu d'Emmanuel Kant. Je vais faire un petit résumé à ma sauce, qui n'est pas tout à fait le même qu'on a l'habitude de voir dans les dictionnaires de philosophie. Il est extrêmement simple. Kant se pose la question, est-ce que ce monde est soumis aux lois du déterminisme? La réponse est oui, tout fonctionne selon les lois de la nature. Est-ce que l'humain est toujours soumis au déterminisme et au principe de la nécessité? Est-ce que toute action humaine peut s'expliquer par le lien cause-effet? Kant postule le libre arbitre comme nous, chrétiens, nous le faisons. Et puisque le libre arbitre, finalement, est impossible à prouver, on ne peut pas ni le prouver, ni le renier à 100%, pour Kant, nous sommes obligés de l'admettre. Sinon, il faudrait ne pas tenir responsable qui que ce soit de quoi que ce soit. Si tout n'est que cause et effet, je fais le mal parce que je suis comme ça et ce n'est pas de ma faute. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de responsabilité possible s'il n'y a pas de libre arbitre. Donc le fameux impératif moral de Kant, ce n'est pas quelque chose de dur et moraliste dans le mauvais sens du terme, comme le critique Nietzsche par exemple, mais nous sommes obligés d'admettre l'existence du libre arbitre, sinon l'homme n'est pas responsable de lui-même. Et en plus, je rappelle que les anciens athées du XIXe siècle aimaient beaucoup les valeurs humanistes, parlaient de liberté et ainsi de suite. Donc, ce qui échappe aux athées, c'est qu'en admettant le déterminisme, tout débat devient inutile d'un point de vue d'athée. Si le croyant postule le libre arbitre et fait du prosélytisme de ses idées, il est cohérent. Il croit avoir le libre arbitre et il pense pouvoir influencer le libre arbitre des autres. Mais un athée déterministe qui débat contredit ses propres convictions. Si la croyance n'est qu'un produit de l'évolution, il est déterminé par l'éducation, le milieu social, l'absence de vitamines, et qu'en sais-je, à quoi bon vouloir changer la personne et même supposer qu'on peut lui faire changer d'avis? Si la tête n'est qu'une marmite bouillante avec des ingrédients prérequis qui sont déterminés, tout débat d'idées devient impossible. Sinon, avec le même succès, on peut aller gueuler sur la scène pour son cours d'eau. Si on admet le libre arbitre, il va falloir esquiver la preuve de Kant, et très sincèrement, je ne le souhaite à personne. Maintenant que j'ai abordé brièvement ces problématiques du débat qui reviennent le plus souvent, j'invite tout le monde à discerner. Peut-être devrait-on en finir avec cette guerre d'épouvantail. Finalement, la différence entre un athée et un chrétien est semblable à la différence d'une personne amoureuse et d'une personne qui ne l'est pas. C'est une différence d'expérience. Être amoureux ne rend pas la personne meilleure et ne lui fait pas spécialement respecter le code de la route. Une personne non amoureuse n'est pas méchante ni sans cœur de ce fait. Il faudrait le reconnaître et cesser le feu. Nous chrétiens, par amour, vous hâtez par le bon sens. Après tout, ces deux concepts ne sont pas toujours contradictoires pour le genre humain, qui est en lui une somme de ses antinomies internes.
Merci beaucoup, Justina. Alors, nous allons écouter à présent l'hymne de Medjugorje, puisque nous allons évoquer, après cette pause musicale, les secrets qui ont été donnés aux voyants.
Yeah. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, comme je le disais en début d'émission, j'ai la grande joie d'accueillir de nouveau Pierre-Marie de Sud-Sérou, qui est, je le rappelle, même si nous en avions la joie de vous accueillir la semaine dernière, docteur d'État en théologie, docteur en théologie spirituelle. Vous êtes prédicateur, conférencier, auteur. Aujourd'hui, nous parlerons de « Je vous prépare au temps nouveau » où vous nous présentez les messages des apparitions de Medjugorje. Nous le disions la semaine dernière, vous êtes très attaché à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort et vous faites dans votre livre un lien entre le traité à la vraie dévotion et les messages de la Vierge Marie en Croatie. Alors, comme dans la majorité des apparitions, il y a une part de secret. Et là, nous en avons. Certains voyants ont reçu 10 secrets, pour certains les mêmes, si j'ai bien compris. Nous allons donc voir ça maintenant. Dites-moi, ces fameux 10 secrets comme les 10 plaies d'Égypte, dites-vous, ces secrets n'ont pas vocation à faire peur, mais devront éveiller à la vraie foi comme signe d'espérance. Et donc en cela, bien différent des 10 plaies d'Égypte. Alors, comme tout secret, nous n'en savons rien, sauf que, comme tout secret, il y a des choses qui se savent. Mais d'abord, qui a ces secrets? Les 6 voyants?
Alors, la Vierge Marie, pour chaque voyant, ils sont 6,
oui,
leur dit qu'après le 10e secret qu'elle leur a révélé, ils ne la verront plus quotidiennement.
Attendez, excusez-moi, ces 10 secrets, les 6 voyants ont 10 secrets différents?
Oui, différents.
Sauf pour
ils en
l'un.
Ont parlé, on sait que le troisième est commun à plusieurs.
Et ils ont
et
le droit d'en parler entre eux.
Concerne Medjugorje, entre autres la colline du Pop Bordeaux.
D'accord, et ils ont le droit d'en parler entre eux.
Ah, je n'ai pas été leur demander, peut-être que Sœur Emmanuel pourrait nous le dire, ceux qui sont amis davantage peuvent poser des questions. Moi-même, j'aurais pu la poser à Vishka, je ne l'ai pas posée.
Mm-hmm.
Ce que je sais, c'est qu'ils en ont parlé, ils ont dit oui, qu'ils avaient les mêmes concernant Medjugorje, qui était le troisième.
Vishka, c'est un signe qui doit apparaître à Medjugorje, c'est ça?
Le troisième secret.
Oui.
Vishka nous a dit aussi que le 6e ou 7e avait été amoindri par la prière et la pénitence des pèlerins. Ensuite, on sait qu'une fois qu'ils ont eu le 10e, effectivement, ils ne la voient plus tous les jours. Donc vous avez 3 voyants actuellement qui ont reçu les 10 secrets. La première, c'était Ivanchka, qui est mère de famille en 1985. La Sainte Vierge lui a bien dit que ce n'était pas du tout parce qu'elle avait mal correspondu,
oui,
que c'était simplement la mission de la part de Dieu le Père qu'elle lui communiquait, qu'il fallait qu'elle y soit fidèle. Et elle a reçu mission de prier particulièrement pour les familles. C'est important, chaque baptisé, nous avons une mission. Demandons-le à la Sainte Vierge de la part de Dieu, à travers notre histoire, notre vie, et bien prendre conscience qu'on doit prier particulièrement. C'est sûr, quand on est médecin et infirmier, quand on est le vénérable Jérôme le Jeune, c'est les enfants trisomiques.
Oui.
Donc à nous de découvrir ce que Dieu nous appelle à prier. Elle, c'est les familles. Donc vous avez ensuite le petit Jacob, qui était le plus jeune, qui prie aussi pour les familles,
oui,
particulièrement, et qui eh bien, effectivement témoigne qu'il a eu ses pas de voir la Vierge. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement grandiose, c'est tellement merveilleux. Mais ce qui est le plus important, c'est d'en vivre tous les jours dans notre cœur et qu'elle soit présente. C'est ça une vraie dévotion. C'est ça le secret de Marie. C'est ça le don de Dieu pour nous. Voici ta mère, nous dit Jésus à la croix. Je te la laisse, mais pour t'éduquer intérieurement à vivre en sa présence et à vivre ce chemin de bonheur qui est déjà dans le Deutéronome au chapitre 30. Je mets deux chemins devant toi, la vie ou la mort. Choisis le bonheur. Alors tu suivras non pas mes commandements, mais cette orientation vers la vie que tu choisis.
Mmh.
Et la vie en Dieu. Et ça éclaire toute notre vie sur terre.
Alors si j'ai bien compris, mais vous rectifierez, nous savons que la Vierge Marie, une semaine avant que le premier secret soit révélé, un prêtre de leur choix l'annoncera. Ce n'est pas un des voyants qui doit l'annoncer.
Non, effectivement, si la Vierge respecte ce que Jésus, son Fils, a voulu. Il y a une hiérarchie sacerdotale. notre pape qui en est le magistère, les évêques qui sont les successeurs des apôtres et des collaborateurs que sont les prêtres et les diacres. Nous, nous avons une responsabilité en tant que baptisés et même, j'irais, en tant qu'hommes de bonne volonté par notre conscience droite. Mais ça n'est pas la même. Et là, effectivement, ça a été dit, Mirana nous le rapporte, qu'effectivement, elle préviendra le prêtre 10 jours avant,
oui.
Pendant 7 jours. Ils jeûneront. Le 7e jour, elle le dit au prêtre qui doit le proclamer à travers tous les réseaux sociaux.
Oui.
Et ensuite, effectivement, 3 jours après, l'événement aura lieu dans une partie du monde où ce sera. Bon, la Vierge nous demande de ne pas tant en parler, mais de prier, d'avoir totalement confiance. Et je voudrais rappeler cela, c'est que la Sainte Vierge disait « Mirana, je t'ai choisi, je t'ai dit tout le nécessaire, je t'ai communiqué des choses horribles. »
Alors,
que tu dois porter dignement. Pense à moi, combien je verse moi aussi de larmes à cause de cela dans ce monde d'aujourd'hui qui souffre tant. Tu dois toujours être courageuse. Mais pensez à Jean, pour prendre Jésus, qui a entendu qu'il était trahi, Jésus, par l'un des 12. Et il n'a pas dit, Jésus, c'est Judas. Il a dit, c'est celui à qui je communiquerai la bouchée. Il a caché le mystère dans le grand mystère de l'Eucharistie que nous pouvons tous recevoir. Alors c'est la même chose que la Sainte Vierge fait. Elle imite, elle met dans le cœur des enfants de porter ses desseins d'amour de Dieu sur ce monde, sur 8 milliards d'hommes aujourd'hui qui sont tous dans un chemin vers Dieu et qui pour la plupart n'en vivent pas, à défaut de le méconnaître. C'est cela le grand mystère du secret. Et c'est cela qu'elle leur dit, « Alors je viens vous aider et vous sauver. » Je dis toujours aux pèlerins de ne pas croire, dit effectivement Mirana, ceux qui craignent pour l'avenir.
Oui.
Si vous êtes avec Marie, si Dieu est amour, si il vous aime, il n'a pas de mal, il n'y a pas de mal, c'est les hommes. Et donc c'est face à ce combat que nous devons découvrir justement, et bien que c'est la foi qui nous tourne vers Dieu, qui nous met en union avec Dieu, et qui fait qu'on est en totale confiance et dans l'abandon divin, fruit d'un esprit d'adoration et d'amour.
Alors ce prêtre, c'est le père Pétard qui a 78 ans, cela veut dire que les temps approchent. En fait, c'est l'impression qu'on peut avoir, parce que les voyants approchent même les 60 ans, sauf Yakov, hein, qui en a 53. Bon, on voit bien que sur le plan mondial, la situation est explosive. Les libertés individuelles, tant sur le plan physique que sur le plan moral, sont de plus en plus étouffées. Voilà, ces temps nouveaux sont donc pour bientôt.
Les signes approchent,
oui.
Nous parlent. Si nous, le propre du croyant, de celui qui adore, c'est de reconnaître les signes des temps, nous dit Gaudium et Spes dans le Concile. Et on peut ajouter Jésus, le regarder. Vous voyez le ciel rouge et vous dites il va pleuvoir. Vous voyez d'autres signes et vous dites la moisson est proche. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas le signe des temps? Parce que vous n'adorez pas, vous ne vivez pas dans la lumière de Dieu. Demandez, vous qui êtes hommes et femmes de bonne volonté, qui cherchez dans les ténèbres, la lumière, il vient pour éclairer tout homme en ce monde. Voilà la parole de Dieu qui nous est donnée au prologue de l'évangile de Jean.
Alors, il y a un des secrets qui sera fait pour convertir les cœurs. On a vu ce qui s'est passé à Fatima, avec la danse du soleil, la pluie de pétales. Pourtant, tout le monde ne s'est pas converti.
Non.
Medjugorje, ce sera sans doute la même chose.
On peut faire des analogies, comme d'ailleurs ce qui est annoncé à Garabandal et qui est vécu pleinement en église aussi, sur place. Hein, le
oui.
prêtre est là pour confesser, accueillir les pèlerins. Et on sait qu'un grand signe sera donné
oui.
et que Conchita nous parle d'un signe cosmique. Donc oui, les athées auront plus peur que d'autres. Et que ceux qui adorent, adorent vraiment pour être entre les mains de Dieu et prier pour leurs frères et sœurs en humanité, qui ne connaissent pas cette révélation de l'amour de Dieu et qui peuvent être dans une situation où ils défroient à ce moment-là.
Mais c'est toujours c'est assez paradoxal parce que finalement, les athées nous disent « je veux voir pour croire ». Là, nous leur montrons, enfin nous leur montrons, le ciel leur montrera. Et pourtant, la conversion ne se fera pas.
Mais parce qu'il y a en chacun d'entre nous le choix libre.
Oui.
Vous savez, je ne peux pas vous faire rapidement, mais la très sainte Trinité, le Père se donne totalement à son Fils, le Fils se donne totalement, librement. Et ils ne font qu'un tellement qu'ils sont libres et un dans leur être avec l'Esprit Saint qui inspire l'amour. Eh bien, nous sommes appelés à cette liberté où on donne tout, on ne se regarde pas et on avance. Alors nous, on est arrêtés par nos péchés, par notre psychologie et les conséquences de nos péchés. Mais au-delà de cela, dans le don total, c'est l'amour. Et nous sommes faits pour cet amour, nous avons été créés pour cet amour. Et l'amour qui prend tout, l'amour de Dieu dans sa créature, c'est la sainteté de Dieu en nous, ça n'est pas la nôtre. On ne peut pas le devenir saint, mais Dieu peut tout en nous et faire de nous des saints. D'ailleurs, il n'y aura que des saints dans le ciel et beaucoup d'entre nous actuellement qui sommes là, qui écoutons, eh bien effectivement, on se retrouvera.
Quelle tristesse de voir tout cela rejeté quand même.
Plus qu'une tristesse. C'est plus que dramatique, c'est tragique. Il y a la possibilité dans l'homme de dire non éternellement à Dieu. Et l'Apocalypse nous rappelle qu'il y a la seconde mort, le refus éternel possible.
Oui. Alors, vous me disiez que vous étiez allé sans doute une bonne trentaine de fois à Medjugorje.
Oui.
Est-ce que...
À chaque fois, l'appel de la Vierge, comme oui. Je suis là aujourd'hui à l'appel de la Vierge.
C'est ce qu'on nous dit quand on arrive là-bas. Bienvenue, la Vierge Marie vous a invité.
Rien n'est au hasard pour celui qui croit. Une seule fois dans l'Évangile, Jésus nous parle par hasard. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est le hasard tant qu'on ne connaît pas sa finalité, tant qu'on ne sait pas pourquoi. Dès qu'on a une finalité, il n'y a plus de hasard. Mmh. Mais il n'y a pas de hasard si c'est Dieu qui gouverne tout. Et je voudrais terminer, si vous me permettez, par effectivement ce témoignage que j'ai eu de Jacqueline Aubry à l'île Bouchard. Oui. Et c'est aussi un lieu de pèlerinage vécu en église. Lorsqu'elle a imité pour moi ce que sœur Lucie faisait à Fatima, eh bien, pour finir, mon cœur immaculé triomphera. Eh bien, le secret de l'île Bouchard se termine aussi pour la France. Car c'est ici que Dieu veut que je sois honorée sous le beau vocable de reine de France.
Merci beaucoup, monsieur. J'invite vraiment tout le monde à lire « Je vous prépare au temps nouveau chez Teki » que vous pouvez, je vous le rappelle, trouver dans notre librairie en ligne sur le site mariedenazareth.com. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des témoignages sur Medjugorje à nous transmettre. Nous en serions très heureux. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous téléphoner, nous appeler en composant le 01 42 50 19 65 tous les jours de la semaine de 10h à midi et de 14h à 16h. Un bénévole prendra votre message et je vous rappellerai. J'en profite pour vous dire que nous avons de charmants bénévoles donc, qui répondent au téléphone, mais nous en cherchons d'autres. Donc si vous voulez bien venir renforcer l'équipe, je serai très heureuse de vous accueillir. Donc écrivez-moi à magnificat@mariedenazareth.com ou appelez-nous. Voilà, chers auditeurs, bonne semaine. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Justina.
Et puis, nous rendons grâce.
À la semaine prochaine.
Merci.